professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut. Il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau.
On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma.
Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti.
S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche.
Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France.
Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit pluridisciplinaire. Pourquoi le capital humain est-il devenu prépondérant? Comment les effets d'entraînement de la connaissance sur autrui jouent? Quelle est la valeur de l'expérience, du partage des savoirs communs? Quelles leçons peut-on tirer des économies d'agglomération? Comment la science s'est mondialisée dans un contexte de progrès technique croissant et d'économie de l'innovation? Pourquoi les villes-mondes, San Francisco, Boston, Paris, Londres, Shanghai, avec leur forte concentration de diplômés du supérieur et des secteurs de pointe, demeurent-elles attractives malgré les hauts salaires et le coût élevé de la vie? Pierre-Michel Menger, directeur d'études à l'EHESS et professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de sociologie du travail créateur, a exploré pendant 2 ans en 2015 et en 2016 les spécificités riches d'enseignements pour les autres secteurs du monde du travail et les mutations qui touchent le monde académique, le couple plus ou moins dualiste de l'enseignement et de la recherche selon le contexte et les pays. Le sociologue rappelait dans une interview donnée au Nouvel Obs en 2016 « La qualité de l'université elle-même fait valoir qu'on est plus inventif là où on trouve plus de gens inventifs. » Et dans son cours du 23 janvier 2015, il soulignait « La recherche crée un climat d'excitation, de passion, de motivation intrinsèque, de liberté, de discussion critique à 360 degrés. » C'est cette dynamique que nous retrouvons ce matin. Mais dans sa note de présentation pour sa série de cours consacrée à la production du savoir, il explique, et je le cite, « Le travail de recherche et d'invention ne serait pas viable si les métiers dans lesquels il est exercé n'étaient pas organisés pour absorber une partie des risques d'échec. L'analyse des carrières, de l'emploi, des rémunérations et des organisations de l'enseignement supérieur est beaucoup plus développée dans le monde anglo-américain qu'en Europe. » Les réformes européennes ont changé la donne, poursuit le sociologue. Elles provoquent une différenciation du tissu universitaire et elles rendent plus visible et plus intense la compétition intra- et internationale. Les transformations qu'elles déclenchent remodèlent les carrières académiques de manière sélective, notamment en raison de l'inégale exposition des diverses disciplines scientifiques et des diverses générations d'enseignants-chercheurs à la compétition internationale par la recherche. Alors que l'innovation a plus de chances d'apparaître dans les espaces agglomérés, la recherche et le travail universitaire s'ancrent et s'épanouissent dans la collaboration. Le travail en équipe devient prépondérant et se développe très vite. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 30 janvier 2015 pour le cours de Pierre-Michel Menger intitulé « La production du savoir, carrières et compétitions dans l'enseignement et la recherche ».
J'en étais resté à une analyse d'un écosystème de la production du savoir et à l'argument de ce qu'on appelle des économies d'agglomération. Il y a un phénomène étrange qui est que non seulement on comprend bien que les salariés qui ont des diplômes élevés peuvent gagner beaucoup d'argent, mais ils le gagnent davantage dans les villes où il y a beaucoup de leurs collègues travailleurs qui sont aussi très diplômés. Et d'autre part, les travailleurs peu qualifiés, eux aussi, sont pris dans le mouvement. Leurs salaires sont variables en fonction de l'écosystème dans lequel ils travaillent, à fonction, à métier donné. Donc il y a là, autrement dit, l'individu ne doit plus être considéré comme détenteur, comme je l'ai dit la dernière fois, d'un capital incorporé de formation, de compétences, etc. Mais il doit être enveloppé dans un système de relations qui sont plus ou moins fécondes avec un environnement plus ou moins stimulant. Et vous pouvez, en quelque sorte, étendre le raisonnement que je faisais antérieurement sur le thème de dans une entreprise où les technologies sont meilleures, où le management est supérieur, on est plus productif et on est aussi mieux rémunéré. Il y a un phénomène de complémentarité. Ici, vous pouvez l'étendre au-delà de la seule entreprise ou de la seule organisation. Vous pouvez l'étendre à une zone tout entière, une zone urbaine, une ville, mais aussi ce qu'on appelle un cluster ou une vallée, une Silicon Valley. Voilà. Donc, ce point intrigue quand même. C'est une découverte et il faut évidemment l'expliquer. Alors pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? D'abord, il faut répondre à un argument qui permet éventuellement de corriger les choses si on les pense en termes de simple corrélation. Cet argument auquel il faut répondre, c'est que dans les villes qui ont des forts taux de diplômés et des salaires moyens plus élevés que la main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée en moyenne, évidemment, le coût de la vie est plus élevé. Je veux dire, le coût de la résidence, des taxes, des transports, des frais de scolarité pour les enfants, des commerces, etc., tout ça est plus élevé. Et donc, on peut répondre à ça en posant une deuxième question. Pourquoi est-ce que les employeurs qui, dans des marchés concurrentiels à l'échelle nationale, internationale, et notamment du côté des activités très qualifiées, celles des diplômés des colleges ou du supérieur, pourquoi est-ce qu'ils paieraient des salaires si élevés pour s'implanter dans des villes et dans des bassins d'activité urbains et d'emploi de cette nature? L'argument vaut pour de multiples exemples dans le monde, et pour des villes, des métropoles, des districts, des clusters industriels qui concentrent ce genre d'activité qualifiée. On les a appelés les villes-monde après Saskia Sassen. C'est Los Angeles, San Francisco et son environnement, New York, Boston, Paris, Londres, Amsterdam, Munich, Tokyo, Pékin, Shanghai et encore quelques autres, et Séoul. Ce sont des illustrations de ces phénomènes de ville-monde. Et par ailleurs, ces villes ont des propriétés particulières, c'est qu'elles sont plus connectées entre elles en termes de flux d'échanges, en termes de flux d'individus, d'idées, de capitaux, d'investissements, qu'elles ne sont connectées aux villes de moindre densité de capital humain. Mais ces villes sont extrêmement chères, en loyer, main-d'œuvre et taxes. Donc pourquoi y rester ? Après tout, les coûts de transport ont baissé, les coûts de communication électronique et numérique sont quasi nuls. La plupart des entreprises employant une main-d'œuvre qualifiée pourraient se relocaliser dans des zones urbaines moins coûteuses. Eh bien, la réponse et l'argument, c'est que la concentration de ces travailleurs qualifiés agit sur la productivité de tous les autres, et de même aussi, bien sûr. Alors, c'est cet argument qui est à la source d'une analyse socio-spatiale de l'innovation et des phénomènes d'innovation et d'invention, ou de production du savoir. Et donc, je prends appui pour quelques exemples, quelques données ici, sur ce travail de Enrico Moretti, qui est professeur à Berkeley. La thèse est celle de ce qu'on appelle des « knowledge spillovers », c'est-à-dire des effets d'entraînement de la connaissance ou des retombées de la connaissance sur autrui, sur un autre que l'individu qui est concerné. Alors, le facteur le plus important du succès économique des villes et des agglomérations était, jusqu'à la fin des années 70, le capital physique. Eh bien, maintenant, c'est le capital humain qui compte comme le prédicteur essentiel de la croissance économique d'une ville. Par capital humain, on entend le niveau et la qualité de la formation des individus avant d'entrer en emploi, mais aussi l'intensité et la qualité de la formation incorporée à l'emploi dans l'exercice même du travail, avec ses incidences sur la santé, l'espérance de vie, le bien-être personnel dont j'ai parlé antérieurement. Or, cette répartition sociale et spatiale du capital humain est très inégale. Je vous ai donné une analyse en termes de rendement du capital sur le salaire la dernière fois, mais maintenant je vais ajouter cette dimension spatiale. Et avec cette répartition spatiale inégale vient aussi la répartition évidemment inégale des richesses et des connaissances détenues et produites. Une des mesures simples de la productivité du travail scientifique et scientifique et technique, pour ce qui est de la contribution directe à la croissance économique, et dans des domaines dont la contribution à l'innovation et à la croissance est la plus facilement mesurable, c'est-à-dire la plus proche d'une appropriation et d'une exploitation par les agents économiques, une de ces mesures simples, c'est le volume de brevets qui sont déposés. C'est une information publique et qui donc donne lieu à beaucoup de travaux de recherche et d'investigation. Eh bien, voici, encore une fois, à partir de la même source, la carte des brevets qui sont déposés par travailleur. Plus c'est foncé, plus le taux de brevets déposés par individu est élevé, et plus c'est clair, plus il est faible. Donc, vous voyez, sans les superposer exactement, que là encore, les phénomènes de polarisation et de concentration dans certaines zones sont tout à fait éloquents. L'autre point, donc, une fois que j'ai parlé de la connaissance produite, j'en viens à la connaissance incorporée dans le capital humain individuel. Et plus le pourcentage de diplômés est élevé, du supérieur, plus le salaire des travailleurs qui n'ont pas de formation supérieure est élevé aussi. Donc c'est une mesure de du spillover, ou de la retombée, de l'effet d'entraînement du capital humain incorporé individuel. Les effets d'entraînement peuvent se résumer ainsi. La productivité du travail augmente avec la teneur en qualification de l'écosystème de travail. Il y a évidemment dans l'analyse de ces phénomènes de productivité supérieure du travail dans les agglomérations, il y a d'autres facteurs qui peuvent être invoqués, pas simplement le seul facteur du capital humain et du niveau de formation de la main-d'œuvre. On en cite habituellement deux autres qui sont le caractère dense des marchés du travail et de l'activité. Autrement dit, ces mondes, ces zones urbaines concentrent beaucoup d'entreprises, beaucoup de producteurs et de consommateurs et beaucoup d'activités de services. Et cette agglomération spatiale des acteurs rend les transactions plus faciles et plus efficaces, contrairement à l'idée qui voudrait que la densité est une sorte d'encombrement, de chaos, de frein à l'échange parce que y a trop de monde. Eh bien non, c'est le contraire. On trouve plus facilement des partenaires de travail, d'échange qu'on recherche dans ces zones-là. Il y a donc un effet de densité et un effet de taille. L'avantage est décisif, notamment pour des actifs très qualifiés, aux spécialités professionnelles très pointues, qui ont plus de facilité à trouver des partenaires ou des clients que dans des zones moins denses et moins peuplées. Et l'avantage est bien sûr aussi du côté de la mobilité de la main-d'œuvre, de la mobilité d'emploi et de la moindre exposition, comme on sait, à un chômage durable en raison de la concentration des employeurs. La deuxième autre caractéristique qu'on cite habituellement pour expliquer ces effets d'agglomération et leur rendement, c'est l'implantation de multiples activités de services très spécialisées, qui est beaucoup plus aisée dans ces zones-là qu'ailleurs, des services juridiques, des services d'information, du marketing, de l'ingénierie, du conseil en management, en innovation, du financement de start-up, du droit de la propriété intellectuelle, des facilités de transport et de logistique, etc. Et beaucoup de ces services, ce qui est important à noter, doivent être fournis en contact direct. C'est le contact direct qui permet d'apprécier les besoins, les caractéristiques du service à rendre et qui facilite en quelque sorte les tâtonnements pour parvenir au bon résultat. Donc la proximité spatiale joue un rôle considérable. On ne peut pas dématérialiser tout. et il y a un gain à matérialiser la relation et l'interaction, mais pas n'importe comment, dans des espaces denses. Évidemment, la grande question, c'est de les rendre aussi soutenables, ces lieux, en termes d'existence. C'est un des grands défis de ces zones urbaines qui concentrent aujourd'hui 20% des villes, concentrent 80% de la population. Donc le défi est évidemment considérable. Mais on ne voit pas le mouvement s'inverser. Alors, ces facteurs de densité, de proximité, d'interaction, de facilitation des échanges interindividuels agissent sur la production et l'échange de connaissances à travers ces interactions. Et donc, mon objectif en vous présentant de tels travaux, il est double. Premièrement, je souhaite mettre en évidence la relation qu'il y a entre différentes catégories de savoir. Encore une fois, c'est un thème qui est sous-jacent à tout l'exposé que je fais devant vous aujourd'hui. Il y a plusieurs espèces de savoir. Il faut savoir comment elles contribuent et dans quelles relations elles sont. Et la relation entre ces multiples ou ces différentes catégories de savoir et les différentes formes de transmission de ces savoirs. Il y en a de plusieurs espèces. Il y en a par l'interaction formelle, l'apprentissage en situation pédagogique, mais il y en a par l'interaction qui sont plus difficiles à mesurer, à observer, qui sont plus invisibles, mais qui sont puissantes. La preuve figure dans ce type d'effet. Et je le fais afin d'examiner quel est l'effet de cette relation entre catégorie de savoir et forme de transmission des savoirs sur la capacité de produire de nouveaux savoirs. Donc des inventions, des innovations, des idées neuves, et sans considérer a priori que seule la spécialisation est la mère de tous les progrès de connaissances, de toutes les inventions, de tous les enrichissements en connaissances. En somme, il s'agit de coupler la notion d'incorporation de savoir dans ce qu'est le capital que détient chaque individu, les notions d'effet d'entraînement des savoirs dans les interactions entre les agents et les effets d'agglomération ou de masse critique que constitue la concentration de détenteurs de savoirs afin d'obtenir ces chances plus élevées de spillover, de débordement du savoir d'un individu vers d'autres individus hors de simples mécanismes d'acquisition formelle et de transmission pédagogique. Et donc la question qui suit la deuxième est comment et où croît le plus vite la production de connaissances, non pas simplement de connaissances disponibles à l'usage de chacun comme des biens publics, mais aussi des connaissances exploitées à des fins d'innovation. Alors, cette deuxième question fait l'objet de beaucoup de travaux, mais aussi de controverses, qui touchent à la question de l'autonomie de la recherche scientifique académique, ou au contraire à l'emprise que peut créer l'engagement des chercheurs dans l'exploitation des connaissances par les firmes qui en tirent parti sur des marchés face à des universités et des centres de recherche qui aujourd'hui, de fait, doivent se procurer des ressources auprès d'un nombre accru de financeurs et de partenaires dont tous n'appartiennent pas au monde du non-profit et de la libre appropriation des connaissances considérées comme des biens publics. Le troisième point que je vais traiter, c'est qu'est-ce qu'il faut en conclure sur la géographie de la production scientifique. Avant de vous donner des réponses, je veux préciser quelques éléments de vocabulaire. Qu'est-ce que j'appelle science, recherche, développement, technologie, invention, innovation ? Rapidement. La science, mettons, pour faire assez vite, c'est la recherche et la production d'une connaissance qui est jugée valide ou vraie par la communauté des pairs à partir de l'observation des faits et de l'accumulation des savoirs passés. Donc le travail scientifique part de conditions initiales qui sont connues de tous, dans la communauté en tout cas, et cherche à produire des résultats qui n'étaient pas connus. La recherche fondamentale a pour objectif d'obtenir une connaissance plus complète d'un sujet sans se soucier directement des applications particulières possibles. Donc elle fait avancer le savoir scientifique hors d'un objectif direct de conversion en produits commercialisables. Et l'essentiel se déroule effectivement dans les universités, les centres et instituts de recherche public ou privé de non-profit de recherche. La recherche appliquée vise à obtenir un savoir et à des fins de répondre à des besoins précis et reconnus. Autrement dit, il y a là des objectifs effectivement précis de commercialisation en vue de produire des produits, des processus ou des services. Le développement, on dit recherche-développement, le développement, c'est l'utilisation systématique du savoir obtenu par la recherche à des fins de production de production de biens, de systèmes, de méthodes utiles. L'invention, dans ce que je dis ici, c'est la création de quelque chose d'authentiquement nouveau, et l'innovation procède de l'invention en tant qu'elle exploite l'invention en vue d'une implémentation ou d'un succès entrepreneurial sur le marché des biens et des services. Donc, vous voyez, la polarité est simple. Derrière, on a toujours la partition entre recherche, invention, qui sont, semble-t-il, plutôt en côté amont, et de l'autre, développement, qui est un processus qui déplie en quelque sorte les capacités de l'invention, puis qui l'applique, qui le développe commercialement et qui le convertit en produit. Vous verrez que cette présentation un peu linéaire des séquences, elle est en fait pas fidèle à la réalité, mais pour l'instant, je fixe les termes de cette manière-là pour savoir s'ils vont s'ordonner dans un schéma linéaire ou non. Alors, je reviens rapidement à une analyse importante et classique qui est de savoir quelle est la relation entre le savoir et la croissance économique. Une caractérisation classique de la croissance économique, c'est qu'elle résulte de l'augmentation de la productivité horaire du travail. Cette productivité a par exemple été multipliée par 4 dans les pays avancés entre 1950 et aujourd'hui. Comment est-ce qu'on l'explique, cette augmentation de la productivité du travail? Il y a des travaux célèbres comme ceux de Robert Solow qui ont montré que l'analyse classique qui voulait expliquer la croissance par les facteurs, la combinaison des facteurs du travail et du capital, capital étant les actifs non financiers, les machines, les équipements, les bâtiments, etc. Cette analyse ne peut pas réussir si elle n'incorpore pas le progrès technologique. L'augmentation de capital, au sens que j'indiquais, matériel, n'explique que 11% de la croissance des États-Unis entre 1909 et 1949, alors que le progrès technique, qui est de fait dans les travaux en question aperçu comme un résidu de l'explication. Il faut imputer à ce qui manque dans le modèle et qui est résiduel dans l'explication, il faut l'imputer à ce progrès technique. C'était ça le paradoxe. Eh bien, ce progrès technique compte pour 51%. Donc, la chose est assez claire. Cela dit, dans cette analyse-là, le progrès technique était considéré comme une sorte de grandeur exogène. C'était même un résidu dans les équations, mais c'était une grandeur exogène. Quelque chose qui ne peut pas être contrôlé, qui survient comme un choc. Et donc, en étant considéré ainsi, on voit que la croissance, en quelque sorte, a des profils qui bondissent d'un état stable à un autre. On passe d'un profil de croissance à un autre en fonction et au rythme des chocs exogènes d'innovation technique et de progrès technique. Ces progrès sont réputés imprévisibles et extérieurs au système. Ils viennent le frapper, en quelque sorte. C'est le thème des grandes séquences que vous entendez répéter à l'infini sur les premières périodes de croissance, 1780, 1880, 1980, etc. Cette idée-là a évidemment est le socle de la compréhension de la relation entre croissance et savoir à travers le progrès technologique, l'innovation technologique. Mais il est apparu d'autres théories dans les années 80 qui sont celles qu'on appelle les nouvelles théories de la croissance et qui cherchent à expliquer le même problème. Comment est-ce que la productivité du travail augmente et donc comment le pays peut s'enrichir? Pour développer cette analyse des nouvelles théories de la croissance ou de la contribution du savoir à la croissance, il faut retenir un point essentiel, c'est que cette définition du savoir doit être approfondie pour faire apparaître autre chose que la formation initiale comme levier de productivité. J'ai dit que le savoir constitué en capital individuel, c'est-à-dire acquis par un individu, c'est bien un bien personnel qui est incorporé, c'est un actif personnel des individus. Ils ont investi les familles, eux-mêmes, parfois à grands frais, comme dans les pays où les études coûtent très cher, ils en attendent quelque chose. Ils ont sacrifié éventuellement du salaire pour des études très longues, etc. Ils en attendent quelque chose qu'il va être le rendement de cet investissement. Et il se trouve que le savoir n'est pas un bien propriétaire. Le savoir, comme l'écrit mon collègue Dominique Forêt, qui est à Lausanne, qui est un spécialiste de l'économie de l'innovation et de la connaissance, le savoir peut être caractérisé d'une triple manière. On reste dans l'idée que le savoir est un bien public. Mais qu'est-ce que c'est que cette espèce de bien public ? C'est un bien, premièrement, dont on ne peut pas empêcher l'utilisation et la réutilisation par quiconque. Tous ceux qui le veulent en disposent. C'est un bien qui est fluide et portable. Même un secret d'entreprise est bien difficile à conserver très longtemps. Les informations et les connaissances qui proviennent des membres de l'organisation sont presque impossibles à contrôler. Il y a des réseaux informels d'échange d'expériences, de coopération, etc., où tout simplement on met sur le marché les produits technologiques et les concurrents peuvent tout de suite les démonter, les observer et les répliquer. La recherche scientifique en est un exemple encore beaucoup plus magistral. Elle fait de ce caractère ouvertement appropriable son ressort fondamental. La production d'un chercheur, c'est la publication, c'est-à-dire la diffusion la plus large possible. La rémunération d'un chercheur, outre son salaire, mais la rémunération auprès des pairs, pour ce travail, c'est la citation, c'est la monnaie du milieu scientifique, la citation. Et la citation et au-delà les différentes formes d'utilisation qui peuvent être faites de cette connaissance. La réputation de quelqu'un se mesure au taux d'utilisation des connaissances qui sont appropriées et réappropriées ou recombinées du moment qu'elles sont affectées à leur auteur, ce qui est un point intéressant. Deuxièmement, c'est un bien non rival. N'importe qui peut recourir à une connaissance et s'en servir une fois ou s'en servir un nombre indéfini de fois sans que l'utilisation de ce savoir lui coûte rien une fois qu'il y a accédé et l'a incorporé. Autrement dit, le coût marginal de l'utilisation est nul. Et en l'utilisant, cet individu n'en prive pas autrui. Un nombre infini d'agents peuvent utiliser exactement le même savoir, la même connaissance, simultanément ou non, pour un nombre potentiellement infini de fois. C'est donc un bien inépuisable. Il n'y a pas beaucoup de biens inépuisables. En voilà un. Transmettre de connaissances, des connaissances, par quelque canal que ce soit, est un jeu à somme positive. C'est un point essentiel. J'ai parlé de ça dans ma leçon inaugurale, j'y tiens beaucoup. Où sont les mondes et les biens qui déclenchent des jeux à somme positive et non pas des jeux de conflit de chacun avec tous les autres pour s'approprier des biens rares? La connaissance est un bien dont l'utilisation engendre des situations gagnant-gagnant, si vous voulez. Tous les participants à la situation de transmission ou d'apprentissage sont gagnants dans ce jeu-là. Enfin, c'est un bien cumulatif. La connaissance est un ingrédient de la production de nouvelles connaissances qui vont enrichir ou déclasser les précédentes. Donc la connaissance est à la fois un produit final de l'activité et un bien qui sert à la production de nouvelles connaissances. C'est à la fois un bien de consommation, si on veut, et un bien de production en même temps. Évidemment, la question qui se pose à ce moment-là, c'est si ces biens de connaissance ont ces caractéristiques-là, comment leur production peut-elle être économiquement viable ? Eh bien, par deux simples mécanismes. Le financement d'emplois, de recherche et de production de savoirs nouveaux, et le monopole temporaire sur l'invention qui est exploité et qui peut engendrer des profits ou des ressources à son propriétaire ou à l'organisme qu'il détient, afin de rendre l'investissement dans la recherche économiquement soutenable. Donc, il faut bien garder à l'esprit que du caractère non exclusif et cumulatif de la connaissance ne se déduit pas ipso facto la gratuité d'appropriation et d'exploitation. C'est évidemment plus complexe que cela. Mais c'est un sujet de débat considérable et aujourd'hui plus qu'avant. En 1962, Kenneth Arrow a donné un célèbre article sur la justification économique du monopole temporaire sur l'invention. Aujourd'hui, les discussions vont bon train sur la libre utilisation, l'open space, l'open source, les mondes communs où la connaissance circulerait sans être appropriable économiquement.
Le Collège de France et France Culture vous présente Pierre-Michel Minger, la production du savoir, carrières et compétitions dans l'enseignement et la recherche.
Ces caractéristiques que je viens de préciser me permettent de dire ceci, de classer le savoir en deux catégories. Il y a d'une part le savoir visible, codifié, créé selon une technologie bien identifiée. Bref, le savoir dont la qualité et la valeur dépendent d'une fonction de production du savoir. Quand j'enseigne, quand je travaille comme chercheur, il y a un système de production de ce savoir qui est plus ou moins efficace et dont le résultat est une invention, une découverte originale et neuve ou une transmission qui font l'objet de publications grâce auxquelles les inventeurs sont crédités de la priorité dans la découverte ou dans le progrès incrémental des connaissances sur un sujet. Ce savoir, il est donc déposé dans des publications, dans des brevets, etc. Il est codifié, il est enregistré, il est répertorié, il est catégorisé, il est cité, il est exploité, ou du moins rien ne s'oppose à ce qu'il soit cité et exploité. Dans la réalité des faits, il y a des disciplines où 90% des connaissances produites ne sont jamais citées. Donc il est potentiellement citable, mais il ne l'est pas toujours. Cette simple indication que je viens de vous donner montre à quel point la production de connaissances est un jeu incertain et risqué. Donc ce savoir a ses producteurs et ses moyens de production, ses localisations, des centres de recherche, des universités, et de manière croissante, ses vecteurs de travail en collaboration. Et il obéit à un processus incessant de raffinement et de transformation, qui est visible et qui est traçable de plus en plus. Ici, je dois donner trois caractéristiques saillantes de la production de ce savoir et qui sont les conséquences directes de sa codification et de la recherche constante d'une augmentation de la productivité du travail de connaissance à travers les innovations dans la fonction de production du savoir. Quelles sont ces trois caractéristiques ? Recours massif à la collaboration, facilitation des collaborations à distance ou à très longue distance et concentration de la production dans un certain nombre de zones denses. Donc, je suis bien sur le terrain que j'ai indiqué tout à l'heure. Alors, premier point, le recours de plus en plus massif à la collaboration, à des collaborations qui peuvent être intra ou académiques ou extra-académiques. Dans les sciences sociales actuellement, c'est une parenthèse, une incidente, dans les sciences sociales aujourd'hui, il existe des laboratoires de recherche dans des entreprises comme Google, Facebook, Apple, Orange, qui recrutent par partenariat ou même sur des emplois permanents des chercheurs académiques de très haut niveau. Des collègues américains comme Joel Podolny, célèbre pour des travaux sur les statuts et les réputations ont été embauchés par Apple University. Duncan Watts, un physicien devenu sociologue, qui est à Columbia, travaille avec des entreprises comme Yahoo ou Google, et évidemment a accès à des bases de données et des technologies, et aussi un environnement de travail avec des ingénieurs et des chercheurs assez sophistiqués et fortement sélectionnés, qui transforment évidemment le jeu des collaborations. Et l'histoire est à peu près la même, mais antérieure, pour le monde des biotechnologies. Le partage entre public et privé est beaucoup plus incertain dans ce domaine-là que dans certains autres. Le travail en équipe reçoit plus de citations que le travail individuel. Et c'est vrai d'à peu près tous les domaines, sauf encore une fois, sauf pour le secteur des brevets, qui est un secteur particulier, mais le travail est plus favorable quand on travaille en équipe. Alors, une deuxième manière d'analyser ce problème de la collaboration, c'est la distance entre ceux qui collaborent. Ici, je m'appuie sur des travaux de Waldman, Thyssen, Van Eck, qui sont sur la globalisation de la science. On part d'un indice de copublication, donc on repart du même problème, c'est quel est le taux de production en copublication, en co-auteur, et quelles sont les collaborations internationales. Et ici figure à droite le nombre d'auteurs par article. Vous voyez que de 80 à 2010, encore une fois sur des bases massives de données, le nombre d'auteurs augmente et la proportion des collaborations internationales augmente et la proportion des collaborations, de toute façon, augmente elle-même. La question qui est posée par ces auteurs, c'est « Mais est-ce que la distance joue pour faciliter le travail ou pour le contrarier ?» Et ici, ils ont mesuré la distance kilométrique entre les co-auteurs d'un article. Et ils ont calculé ça à partir des adresses. C'est ce qu'on appelle le géocodage des papiers scientifiques. Chaque papier est signé par un auteur qui a une localisation. Il appartient à une institution. Et donc, on regarde la distribution kilométrique moyenne entre les auteurs, et on voit que cette distribution kilométrique moyenne entre les auteurs qui collaborent n'a pas cessé d'augmenter. Les chiffres sont en kilomètres ici, on passe de 250 à presque 1600 entre 1980 et 2010. Donc, on voit bien que la science s'est mondialisée physiquement à travers la distance et néanmoins à travers l'intensité croissante de collaboration. La distance augmente, mais la collaboration augmente aussi. Les explications sont assez simples, mais le phénomène doit d'abord être mesuré, vérifié et décrit. Donc ça vous donne une géographie du travail et du travail en collaboration. Le travail en collaboration augmente et il se disperse. Et donc, on peut dire que c'est une sorte de bonne nouvelle. La communauté scientifique est devenue une communauté mondiale comme il y en a peu. N'importe qui peut travailler en collaboration à très longue distance avec quelqu'un d'autre. C'est de plus en plus fréquent, c'est inégalement réparti selon les disciplines, mais la tendance est à la hausse à peu près partout et franchit complètement la barrière de l'espace. C'est ce qui donne à la science ce caractère universel, si on veut, mais via aujourd'hui autre chose que l'incorporation du travail dans un seul individu qui représentait l'universel à lui tout seul. Aujourd'hui, l'universalité, elle est ancrée dans la collaboration. Le problème qui est posé, c'est de savoir, mais où donc travaille-t-il ? Et ici, je fais référence à des recherches qui ont été publiées par un collègue français, Michel Grossetti, et son équipe, Eckert et Millard, je crois, font partie de son équipe, et qui ont collaboré avec Yves Gingras du Québec ou du Canada, la rivière Gégou. Et ils ont étudié les taux de concentration des publications mondiales dans les villes les plus importantes. Et ils ont voulu savoir si cette concentration dans les villes, qui est un de mes sujets, elle augmentait ou elle diminuait. Et il y a deux résultats qui sont assez frappants, c'est que premièrement, Les dix villes, les plus importantes dans la liste des grandes agglomérations, qui sont classées par taille jusqu'à un ensemble de 300 grandes agglomérations, les dix premières concentraient en 86, 87, 88, en moyenne annuelle sur ces trois années, 21% des publications, un cinquième des publications mondiales. Les auteurs montrent que ce taux a diminué. Il est de 13% 20 ans plus tard. Donc, l'argument de « il y a des villes-mondes qui captent tout », c'est peut-être un argument qu'il faut regarder de plus près. La distribution, ensuite, est sujette à des fluctuations moins importantes à mesure qu'on élargit le cercle des villes en question, et de leur contribution à la production. Si on prend les 300 villes, les 300 agglomérations les plus importantes, elles concentraient 80% de la force de publication en 86, et elles en concentrent encore 75% en 2006, 2007, 2008. Donc, il y a un phénomène de concentration, mais il y a aussi un phénomène de relative déconcentration dans le temps. Du moins, quand on s'intéresse à la production. Et c'est là que le jeu scientifique va encore aller un pas plus loin. Comme je l'ai dit, on a deux critères. Premièrement, la production, et deuxièmement, la citation, c'est-à-dire la valeur attribuée aux productions qui sont publiées ainsi en collaboration et leur diffusion, leur reprise, leur réappropriation et leur exploitation. J'en viens à ce sujet qui est la qualité de la production. Et ici, vous avez la carte de l'Europe, et c'est tiré d'un travail de Bornmann, Leidersdorf et leurs collaborateurs, qui analysent l'excellence dans la production scientifique et qui en donnent une vision géographique à partir de sources, de bases de données qui sont disponibles. Ils donnent même toutes les formules pour refaire le travail, comme on le fait aujourd'hui, et voilà comment les choses sont données. On passe des articles les plus cités aux moins cités. Et vous voyez qu'on a bien un phénomène de dispersion spatiale, par exemple pour l'Angleterre, c'est très net. Là, ce sont les neurosciences, j'ai oublié de le préciser. Vous voyez qu'on a bien un phénomène de déconcentration, mais quand on regarde l'impact de la qualité, les choses sont assez différentes, puisque c'est quelques endroits, Londres, Oxford, Cambridge, qui concentrent la qualité la plus élevée. Paris est dans cette situation assez analogue, et en Allemagne vous avez beaucoup d'universités, mais là encore il y a quelques pôles, etc. En Suisse, le pôle de Zurich est absolument massif, et c'est vrai pour les neurosciences, c'est encore plus vrai pour la physique et l'astronomie, et ici ce sont les sciences sociales, et là c'est plus dilué. Notez d'ailleurs que la France c'est l'Angleterre qui bénéficie de son privilège linguistique. La science sociale qui est référencée dans les grandes bases bibliométriques, c'est la science sociale publiée en anglais. Donc il y a un biais de construction des données, par définition. Et donc la France qui publie moins en anglais que les autres, que la Hollande ou l'Allemagne, souffre dans les sciences sociales d'un retard, même si sa production peut-être un peu est elle-même aussi concentrée dans quelques zones. Donc cette analyse socio-spatiale de bibliométrie spatiale, j'y arrive, corrige en quelque sorte les données que présentaient Grossetti et Gingras. Et parce qu'elle hiérarchise la valeur de la production. Et elle montre que la concentration reparaît quand on relève l'estimation de la valeur de la production. Bon, cet exercice-là, je voulais le faire sur la partie production du savoir formel, codifié, répertorié, classé, et faire varier la géographie de cette production et sa qualité de manière corrélée. Maintenant, j'en viens à l'autre partie de la production des savoirs qui m'intéresse. Plus on s'éloigne de la production de savoirs orientée vers l'invention selon ces protocoles de recherche fondamentale, plus les savoirs qu'on mobilise et les acteurs de cette production et de cette diffusion du savoir sont hétérogènes. Et ici, je me déplace du pôle de l'invention vers le pôle de l'innovation. Et si je confronte ou mets en contraste en quelque sorte l'activité d'invention et l'activité d'innovation, selon la définition que j'en ai donnée tout à l'heure, c'est en quelque sorte pour mettre en tension une définition mertonienne du savoir, c'est-à-dire une activité autonome à vocation universelle, désintéressée, autogouvernée, contrôlée par les pairs, à l'abri des forces du marché, comme à l'abri des jugements ou des sollicitations des profanes, des non-scientifiques. Tout ça fait partie d'un système de définition des conditions de réalisation de la production scientifique selon Merton, qui est un des auteurs influents, Robert Merton, de la sociologie des sciences, depuis longtemps, et qui a connu un regain d'intérêt ces dernières années à travers sa fameuse analyse des inégalités par avantages cumulatifs. J'y reviendrai plus tard. Je mets donc cette définition mertonienne de la production scientifique en tension avec une définition de la production de connaissances qui est beaucoup plus composite et qui est orientée vers des finalités plus pratiques et généralement, mais pas exclusivement, commerciales. Ce sont les innovations qui existent dans toutes sortes d'activités marchandes et non marchandes. Et donc le problème que je vais analyser, que je vais examiner maintenant, il se décompose ainsi. Que savons-nous des processus de production de connaissances impliqués dans l'innovation? Deuxièmement, que pouvons-nous en dégager pour l'analyse des relations entre invention et innovation? Et troisièmement, comment se comportent les acteurs des deux mondes, celui de l'invention et celui de l'innovation? Est-ce qu'ils sont associés? Est-ce qu'ils sont rivaux? Est-ce qu'ils sont partenaires? Est-ce que les uns s'opposent aux autres? Est-ce qu'il y a des résistances de la part de certains d'un monde par rapport aux autres? C'est le fameux thème de la marchandisation de la science ou de l'entrepreneuriat académique qui est soulevé par une partie des scientifiques du pôle invention et recherche fondamentale. Mais il faut dire aussi, et je le montrerai, que les différences entre les disciplines sont ici très considérables aussi. Et enfin, comment ces débats entrent-ils en résonance avec les transformations des systèmes d'enseignement supérieur et de recherche? Alors, j'examine la production du savoir depuis le point de vue de l'innovation. La distinction qui est faite habituellement entre invention et innovation nous dit ceci. L'invention, comme je l'ai rappelé plus haut, est une découverte et la première émergence d'une idée qui peut être éventuellement exploitée ensuite et réappropriée. Dans certains cas, l'invention et l'innovation sont étroitement associées au point qu'il peut paraître difficile de les distinguer. Le cas des biotechnologies est un cas assez connu, qui a été très étudié en sciences sociales de la science et de l'innovation. Mais dans beaucoup de cas, il peut y avoir un décalage considérable entre une invention et son exploitation ultérieure, sa réappropriation. Le partage entre invention produite surtout dans la recherche scientifique académique et l'innovation, qui est beaucoup une activité des entreprises, indique ensuite ceci. L'innovation, c'est une combinaison de plusieurs espèces de savoirs, de compétences et de ressources. Aptitude à élaborer des produits, connaissance des marchés, mobilisation de ressources, construction de systèmes de distribution des biens inventés, des biens innovants, mise sur le marché. Et c'est d'ailleurs aussi de là que vient la définition schumpeterienne de l'entrepreneur innovateur. Ce n'est pas simplement un individu qui a des idées géniales, c'est surtout quelqu'un qui, dit Schumpeter, combine des ressources, qui sait combiner des ressources et qui sait prendre en charge, par l'investissement et la gestion des risques, qui sait prendre en charge l'incertitude qui est inhérente au changement technologique et à l'innovation. Que ce que valent les connaissances nouvelles, la transformation en technologie, en biens visibles sur un marché, est-ce qu'il y a une demande pour ces biens quelles sont les réactions des concurrents, etc. Voilà toutes les zones d'incertitude. Et donc, à ce titre, l'innovateur qui combine des ressources et des connaissances d'ordre différent, il est bien différent, à première vue, d'un inventeur. Les recherches sur les innovations font apparaître aussi que la production de savoirs ne correspond pas, de ces savoirs multiples ne correspond pas du tout à un schéma linéaire. Et donc c'est en ayant ces voies diverses de l'innovation en mémoire qu'on comprend pourquoi l'expérience des usagers consommateurs ou celle des personnels même de l'entreprise peuvent être elles aussi des sources importantes d'innovation. Sans arrêt, quand on parle à des entrepreneurs, j'avais une conversation récemment avec un responsable de Peugeot qui est la firme automobile française qui a déposé le plus de brevets récents dans l'industrie automobile, et il me donnait exactement ces analyses-là. Une partie des innovations viennent du personnel, d'observation, de modifications à faire. Une autre partie viennent d'analyses de marché, de tâtonnement, de recombinaison de connaissances, d'imitation des concurrents et d'un cran plus loin, et une autre d'initiatives plus radicales, mais qui sont incertaines, dont beaucoup vont échouer, certaines vont réussir. Et donc c'est un ensemble, un mix, et ce mix, il est saturé d'échanges, d'interactions entre des acteurs hétérogènes. C'est ça que je veux dire. Et donc le modèle linéaire, lui, il ignore les phénomènes de feedback, les phénomènes de boucle, en quelque sorte, entre ceux qui font quelque chose, qui tâtonnent, qui essaient d'apprendre, et puis ça ne marche pas, on revient en arrière. C'est un mécanisme dynamique et non linéaire, avec des échecs, des ratés, qui obligent à reconsidérer les décisions amont, et éventuellement à faire bifurquer complètement le processus, ou la trajectoire de développement d'un procédé nouveau dans une direction qui est totalement imprévue. Donc, en faisant apparaître d'autres acteurs que des experts en invention source, en quelque sorte, et ou en développement, et en les plaçant eux-mêmes dans des situations de tâtonnement et de bifurcation possible des décisions, il s'agit de faire apparaître non seulement l'incertitude inhérente à la production de n'importe quelle connaissance nouvelle, mais aussi des mécanismes d'apprentissage individuel et collectif. Et de fait, l'apprentissage, c'est autre chose qu'une simple accumulation de savoir. L'apprentissage, il implique effectivement d'augmenter le stock de connaissances, mais aussi de le gérer, et aussi d'éliminer les connaissances qui sont devenues inutiles. Il y a une phrase célèbre de Nietzsche, qui parle de la puissance de l'oubli, de la fonction productive de l'oubli, qui est une valeur essentielle. On peut en tirer des préceptes sur le caractère destructeur de l'innovation, comme disait Schumpeter, c'est un phénomène de destruction créatrice, c'est la même idée, c'est que quand on apprend, il faut savoir oublier aussi. Et dans la typologie des connaissances qu'on produit, figurent deux grandes catégories de mécanismes qui font l'objet de mécanismes d'apprentissage spécifiques, les savoirs tacites, non codifiés, fortement dépendants de contextes locaux et de leur constitution, et des savoirs explicites, codifiés. J'ai parlé des seconds, je vais parler maintenant davantage des premiers, ces savoirs tacites qui sont soit individuels, soit collectifs. Ces savoirs individuels sont le produit d'actions et de pratiques quotidiennes. Ce sont des apprentissages non formels, en partie invisibles, qui sont continuellement mis en œuvre et actualisés. C'est ce que j'appelle la valeur de l'expérience dans le travail, dans les interactions, et qui permettent, qui expliquent qu'on puisse accumuler du capital humain au-delà des connaissances qu'on a acquises initialement. Et ces fameux arguments de Rosen qui décrit l'activité d'un individu comme un mélange de travail et d'apprentissage. Dans le cours même de l'action, on apprend en faisant. C'est une valeur fondamentale, le learning by doing. Et il y a d'autre part des savoirs tacites produits collectivement par le partage des expériences communes. C'est ce qu'on peut appeler la culture d'une organisation, par exemple. C'est un capital de connaissances en partie invisible. Quand on analyse le capital humain d'un individu dans un travail, dans une organisation, on distingue généralement deux choses. Ce qu'on appelle un capital général, c'est quelque chose qu'il peut transporter partout, et un capital spécifique qui est non transférable, qui appartient précisément à ce qu'il a appris dans le site in situ. Et celui-là, c'est le produit d'apprentissage localisé et collectif. Donc la mise en évidence de ces différents types de savoirs dans la production des innovations. Elle a pour corrélat la nature inextricablement individuelle et collective de la production de connaissances et les gains qui sont retirés des interactions, de leur fréquence, de leur diversité, pour rendre possible l'échange et l'enrichissement des différentes espèces de connaissances que j'ai distinguées. Et la nature non linéaire des processus d'innovation exprime bien ce phénomène d'imbrication des deux catégories de savoir. On peut généraliser l'argument et donner de cet argument de la dimension interactionnelle de la production de savoir nouveau une vision d'ensemble. Les gains observés à l'agglomération des activités des personnes dans des espaces denses d'interaction reposent au fond sur trois types de mécanismes au plan micro-social et micro-économique. Premièrement, les individus partagent un ensemble de biens et d'équipements indivisibles, tout ce que peut offrir une grande ville en termes de quantité, de diversité d'activités productives, d'activités marchandes, de biens et d'équipements non marchands, de biens de savoir, de lieux de savoir. Tout ça constitue les bénéfices de la variété qui sont liés à la densité de l'espace. Et la diversité des activités qui sont réunies et concentrées dans ces espaces denses peut augmenter aussi les gains de spécialisation individuelle finement différenciée dans le travail, dans la consommation, dans les loisirs. C'est le jeu de la compétition par la distinction individuelle, qui est effectivement fortement corrélé à la résidence dans les grandes agglomérations. Par exemple, pour vous donner juste un exemple assez illustratif, ceux qui regardent le moins la télévision en France habitent Paris. Donc ils ont une gestion de leur loisir qui, alors que la télévision occupe 4 heures de l'agenda quotidien en moyenne des individus. Deuxièmement, en présence d'un grand nombre d'agents, les chances de bon appariement entre les individus et entre leurs compétences, entre leurs préférences, entre leurs spécialités professionnelles, ces chances-là augmentent. De même qu'augmente la qualité de ces appariements pour travailler, collaborer, partager des connaissances et des expériences. Troisièmement, l'apprentissage, ce mot-clé, acquisition, accumulation, échange de connaissances, a pour propriété intrinsèque d'être essentiellement produit par l'interaction entre les individus largement en face à face. Et évidemment, les grandes agglomérations facilitent ces situations d'apprentissage. Elles ne mettent pas simplement les individus au contact de professionnels experts, de technologies de la dernière génération, dont le marché est plus simple à développer dans les grands centres urbains, d'activité et de peuplement, mais les individus sont aussi en mesure d'acquérir plus vite des compétences et des savoirs ordinaires divers et une connaissance pratique du comment faire et auprès de qui apprendre. Voilà des mécanismes qui sont essentiellement liés, ces trois caractéristiques-là. Il y a une modélisation de cette analyse qui a été faite par deux auteurs, Duranton et Puga, dans un article fort intéressant de 2004. Et de tout ceci émerge une conclusion. Les chances d'innovation sont plus élevées dans ces espaces d'agglomération qui sont dotés d'une concentration et d'une diversité de ces espèces de savoir entendus en leur sens élargi.
C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Pierre-Michel Minger sur la production du savoir, carrières et compétitions dans l'enseignement et la recherche, le 30 janvier 2015. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, le cours complet, notamment la vidéo, où le sociologue présente de nombreux graphiques et tableaux, ainsi que l'ensemble de ses cours. La leçon inaugurale de Pierre-Michel Minger a été publiée chez Fayard en 2014. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons en compagnie de Pierre-Michel Minger la production du savoir suite. Et dans quelques instants, nous retrouvons Émilie Chaudet. Belle journée à l'écoute de France Culture.